J'ai bien apprécié les deux témoignages qui ont été donnés, à savoir que les technologies en matière d'énergie renouvelable, ce n'est pas forcément les technologies photovoltaïques, les technologies éoliennes, les technologies ceci. Ça. En fait, c'est beaucoup plus segmenté que ça. On peut rentrer sur le marché par une compétence spécifique qui est partagée par le photovoltaïque, l'informatique. Aujourd'hui, le grand acteur en France sur le photovoltaïque de troisième génération, ce qu'on appelle le photovoltaïque monocouche, où on a des, on utilise en fait les propriétés quantiques de du silicium, c'est Soitec. Soitec qui ne travaillait pas jusqu'à il y a quelques temps sur le photovoltaïque, mais qui travaillait sur vous savez, les microprocesseurs,
les microprocesseurs téléphones.
Téléphones ou autres, le concurrent de Intel, AMD.
AMD, voilà.
Il fait combien de...
Et qui travaille sur Minatec, donc avec à Grenoble, etc. Aux États-Unis, les grands de la photovoltaïque, ils sont dans la Silicon Valley. C'est bon. Donc, il y a des créneaux sur lesquels, des niches sur lesquelles les gens peuvent se positionner dès lors qu'ils ont des compétences qui ne sont pas forcément les compétences. On parlait de chaudronnerie, on parlait de ceci, etc. Bon. Ça, c'est quelque chose qui me semble important. J'aime moins l'idée de compétition des territoires français. Bon, mais ça, c'est peut-être parce que je suis de l'État. Hein. Non.
Ton rôle,
non, mais ceci dit, c'est...
Il y a un arbitre.
Non, mais je prends un exemple. Je citais, quand on est à Bordeaux, un document qui sort tous les 5 ans, qui est Technoclé. Alors, il y a eu 2005, il y a eu 2015, 2010, on est en train de travailler sur 2015. Technoclé 2010, c'est l'ensemble des technologies que le secteur industriel doit maîtriser d'ici 2010 et il veut rester dans la course. Alors globalement, il y en a, là, j'ai plus les chiffres exacts, il doit y en avoir 83, 84 en tout pour vraiment des technologies sur lesquelles on doit investir. Sur ces 83, 84, il doit y en avoir 20, entre 20 et 25 qui sont liés aux écothèques. On a aussi 20 ou 25 sur les technologies de la santé, ce qui montre quand même les priorités en la matière. Sur ces 20 ou 23, il y a à peu près 3/4 de ces technologies qui sont aujourd'hui considérées comme des technologies orphelines parce qu'aucune région ne s'en est emparée alors qu'on sait qu'il y a des choses qui pourraient se faire dans ce domaine avec des régions qui sont compétentes, etc. Et là, on vient de lancer un pôle, c'est le ministère de l'Environnement qui a annoncé ça, mais avec des crédits du fonds, d'autres fonds, sur les écothèques, un appel d'offres de compétitivité écothèque. Alors, on a quelques projets sur la qualité de l'eau, etc. Mais beaucoup de régions, alors je ne sais pas si elles ont été, si ça aboutira, sont restées sur des, j'ai pas envie de dire des petites technologies, mais des choses du genre bâtiment basse consommation. Alors, c'est pas pour, il y a des gens du bâtiment ici, je vais pas dire que c'est pas bon de travailler sur le bâtiment basse consommation, mais ou bâtiment à énergie positive. Mais quand il y a 24 régions, j'exagère un peu, qui répondent sur, ou qui veulent avoir leurs compétences sur le bâtiment basse consommation, on fait deux erreurs. On fait une erreur déjà parce qu'aucune région n'aura les capacités de le faire sérieusement, surtout que généralement, c'est vu, comme tout à l'heure, c'est vu comme si on investissait sur l'énergie photovoltaïque. Alors, le bâtiment basse consommation ou à énergie positive, ça couvre 50 technologies. Donc, c'est même pas un créneau particulier, c'est l'ensemble de la filière qui est décliné dans les 24 régions, sensiblement. A contrario, on n'a toujours pas des choses sur certains stockages de l'énergie éolienne, etc., qui sont pourtant clairement des besoins. Et j'attends avec impatience ce qui se fait. Est-ce qu'il y aura des projets qui sortiront alors sur les smart grids? Parce que dans les premiers appels à projets, il n'y a rien eu dessus, hein, sauf tout. Il y avait ça. Voilà, donc, compétition, oui, mais moi, j'aimerais autant qu'on couvre au moins et qu'on se répartisse un petit peu les besoins, mais c'est peut-être en dehors
bon. Alors, plusieurs interventions, courtes si possible, Luc et après Serge.
Sur la question compétition, coopération, juste évoquer, ça pose la question des contrats de projet État-région, avant contrat de plan, et Alain Rousset se plaignait quand il y a eu le lancement du plan de relance et des 1000 projets de Vedjan, l'ARF n'avait pas été auditionné. Bon, ils ont été entendus, là, avec la commission Rocard sur le grand emprunt, et ça pose quand même la question. Et comment on va concevoir les contrats de projet? Avant, il y avait des schémas stratégiques nationaux, contrats de plan. Est-ce qu'on revient qu'à une logique projet région par région? Première chose. Deuxième chose, sur la question du financement, j'aimerais bien qu'on aborde l'éventualité de la SEM. Ce qu'en pense Jacques, la perspective d'une SEM énergie renouvelable, et puis les collègues qui, hier, ont témoigné justement de la SEM en matière d'aménagement. Parce que là, on est dans une modalité particulière de partenariat public-privé, avec la SEM aussi. Et est-ce que c'est pas un chaînon manquant, au-delà de ce que peut faire la de ZADI, tout ça?
Dans l'ordre, Serge.
Ah, pardon, je vais prendre après, alors.
Moi, simplement, je voulais dire, insister sur, parce qu'on parle d'espace-temps, là, vous avez beaucoup parlé du territoire. Moi, je voulais simplement souligner l'importance de la dimension du temps, surtout vu du territoire, parce que, et ça rejoint celle du financement, parce que le financement privé, vous ne pouvez l'attirer que lorsqu'il y a une opportunité de business derrière relativement rapprochée, donc un produit ou un service qu'on peut mettre sur le marché, allez, je dirais d'ici 2 ans, 3 ans maximum. Et lorsque, ça rejoint ce que tu disais sur les technologies clés, parce que nous, on travaille sur ces sujets-là. Donc, l'idée, c'est de se projeter dans le futur et d'anticiper les choses et de se positionner. Seulement, à ce moment-là, le business, il est bien lointain encore quand on fait ce positionnement. Donc, ça veut dire que le territoire, il doit investir. Voilà. Donc, la dimension du temps, elle joue. Et plus on avancera dans le temps, plus la part du financement privé pourra être importante. Enfin, nous, c'est comme ça qu'on essaye de jouer, hein. C'est-à-dire de maîtriser certaines technologies. Donc, au départ, c'est vrai que les financements sont complètement publics. Et puis ensuite, au fur et à mesure de l'avancée des projets, j'insiste beaucoup sur cette... Je l'ai dit tout à l'heure, mais la dynamique de l'innovation, c'est pas quelque chose qui est ou pas. Et c'est vrai, j'ai entendu Philippe, tu disais tout à l'heure, on est arrivé trop tard. Ben oui, on est arrivé trop tard parce que il fallait peut-être se positionner avant sur certains domaines, etc., etc., pour être plus mature, plus tôt. Voilà, donc moi j'insiste beaucoup sur la dimension du temps et sur le rôle des acteurs publics à alimenter la dynamique de l'innovation dans la durée.
Quelques petits points sur la production la fabrication de capteurs photovoltaïques. On doit être, je crois, à 64 mégawatts actuellement par an, quelque chose de très faible, et quand on prend la carte européenne des producteurs ou des fabricants plutôt de capteurs, on n'apparaît pas, quoi. On est dans l'épaisseur d'un trait, la France n'est pas citée. Si je ne prends pas la carte mondiale, ça serait pire. Les projets que je vous ai présentés tout à l'heure, et j'espère dans une semaine pouvoir le confirmer, de toute façon la presse s'en fera l'écho, hein, on multipliera par 4 la production française, et dans 2 ans derrière, on refera encore la même couche avec un autre partenaire mondial. Donc on va quand même rentrer à ce moment-là dans la cartographie de la production européenne et mondiale. Hein. Ça, c'est une parenthèse. Ce que vous disiez tout à l'heure, je m'adresse à mon voisin, là, sur les 23 technologies, aucune région ne répond. Excusez-moi, mais aucun industriel ne répond, parce que nous ne sommes pas des fabricants ou des producteurs de technologies. Et vous l'avez vu dans les exemples, là, si vous n'avez pas un industriel, un porteur, quelqu'un qui a une volonté d'entreprendre avec vous, vous ne faites rien, quoi. On est là pour les inciter, les aider, les accompagner, mais on ne peut pas se mettre à leur place, hein. On n'est pas dans cette forme d'État, encore aujourd'hui. Troisième remarque, pour répondre à une question de Luc Pabeuf sur les SEM. Oui, bon... C'est le nerf de la guerre, hein. C'est le moteur. Partenariat public-privé, bien sûr. Les SEM sont montés en général initiative publique. Hein. On demande aux privés de venir. Mais les privés, c'est quoi ? C'est ou des industriels, donc qui vont y trouver leur compte assez rapidement, parce qu'ils ont aussi des actionnaires, hein. Ou des banques qui, elles, misent aujourd'hui relativement correctement sur les énergies nouvelles. Faut pas leur parler de choses trop innovantes, trop avancées, parce que la prise de risque, c'est pas leur fort en ce moment. Hein. Faut pas non plus leur demander beaucoup d'argent, parce que il paraît qu'elles manquent de liquidité, donc ils vont dire augmentez votre tour de table, mettez-en plusieurs autour de nous, et puis on mettra un petit peu. Donc les montages financiers aujourd'hui, ils sont un peu sous cette contrainte-là, que ça soit par les SEM ou par du privé. Sauf que les SEM ont parfois une thématique qui peut en soi apporter et concentrer des fonds, avec des fondations ou autres financeurs. Voilà. Bon, après, vous avez raison, il y a les problèmes d'horizon de retour. Hein. On a vu tout à l'heure sur une planche de Luc, là, le laser pétawatt. Alors, laser pétawatt, c'est 1000 fois plus puissant que les lasers qu'on utilise sur le laser mégajoule. Vous voyez déjà la bête. Hein. Pourquoi ? C'est pour multiplier par 2,5 le rendement de cette énergie nucléaire. Mais ça, c'est une parenthèse. Qui a acheté le laser pétawatt ? Qui le finance ? Aucune banque, aucun privé, pas l'État.
C'est la région qui a acheté le laser. La région est propriétaire de son laser. Demande à l'État de participer. Non, c'est pas le moment, c'est pas la notre politique, et je respecte. Hein. Le projet s'est développé, ce qu'on appelle le projet Pétale, avec des partenaires européens, des fonds européens, et pas avec des partenaires d'État. Ce qui amène à la réflexion de cette homogénéité dans la hiérarchie ou dans les couches de décision de notre organisation française, mais c'est peut-être un autre sujet. Par contre, c'est pas un autre sujet, quand j'entendais tout à l'heure, et tout à fait à juste titre, par vous, monsieur, là, que l'énergie allait s'organiser de façon un peu hiérarchique. Hein. Il y a des équilibres locaux à trouver, il y a une dimension territoire pas trop définie, mais qui permet aussi d'avoir des données, des masses critiques intéressantes entre consommation et ressources. Et puis il y a une gestion nationale, parce qu'on ne va pas mettre une centrale nucléaire dans chaque village, etc. Quoi. Enfin, je caricature. Donc cette organisation-là qui n'existe pas aujourd'hui, on a un système en râteau, elle va bien entendu impliquer ces compétences territoriales à chacun à leur niveau. Une des questions qui se posera, c'est la pertinence des contours administratifs des territoires, voilà, qui ne correspondent qu'à des contours administratifs. Et on est peut-être aussi à faire l'inverse de la logique économique ou de la logique des atouts territoriaux, c'est-à-dire à imposer par cette contrainte administrative un schéma dans nos têtes en disant « c'est ça le territoire pertinent ». Je suis à fond pour les régions, rassurez-vous. Mais pourquoi ? Quel droit bon, Napoléon est passé avant nous, on ne discute plus le département, et pourtant. Mais la région, c'est plus récent, et est-ce que c'est le bon découpage ? Et en fait, on va retrouver un découpage différent en fonction de chaque projet, chaque sujet, voilà, chaque thème, etc. Voilà. Et ça amène à une autre question que Luc évoquait tout à l'heure. Les schémas directeurs, ou les schémas de projet État-région, etc., qui gravent dans le marbre de façon assez durable des engagements, sont-ils avec des horizons pertinents ? Oui, si on veut entreprendre, effectivement, je l'évoquais dans la durée et à terme pour nos enfants, et non si on veut de la flexibilité et de l'adaptabilité. Mais j'y reviendrai.
Alors, on va passer à la deuxième partie de ce débat, prendre uniquement 5 minutes pour aborder cette nouvelle question, qui est la place du milieu comme déterminant de l'innovation. Parce qu'après, je voudrais qu'on consacre vraiment du temps sur justement la question du territoire pertinent pour l'innovation et finir par la question aussi du débat citoyen et de la démocratie par rapport au sujet. Alors, la place du milieu comme déterminant de l'innovation, Serge tout à l'heure a parlé des thèses des Dalot, hein, avec l'entreprise innovante qui ne préexistait pas au milieu local, qui était secrétée par le milieu. Tout à l'heure, Philippe, tu as parlé du patrimoine, en fait, hein, d'une région, avec la chaudronnerie, le milieu maritime. On a vu sur la région Aquitaine aussi tous les atouts géographiques, physiques de cette région. On pense notamment à la forêt, on pense au gaz aussi. Donc la question, les milieux sont-ils des incubateurs de l'innovation ? Comment faire un diagnostic du territoire, des atouts du territoire, de ses ressources, hein, comment mettre en valeur ces questions de patrimoine, d'aménité naturelle, et donc je repose cette question, les milieux peuvent-ils être des incubateurs de l'innovation ? 5 minutes.
On pourrait gagner. Alors, tu as des intervenants.
Alors, Philippe.
Oui, alors entre la dimension économique et la dimension sociale, je ne peux pas m'empêcher de répondre les deux, mon colonel. Bien. Bon, plus sérieusement, évidemment, oui. Alors, juste, on sait qu'effectivement, tu parlais des aménités naturelles, mais je voudrais aussi qu'on parle de la culture sociale des territoires. Saint-Nazaire, par exemple, qui a été longtemps ciblée comme la ville rouge en France, là où justement tes collègues ne venaient plus parce qu'ils y prenaient beaucoup de risques. Et c'est une réalité, une vraie réalité sociale. C'est-à-dire que Saint-Nazaire était une ville de conflits durs, où même aujourd'hui, ils sont décédés aujourd'hui, quand on interrogeait encore il y a quelque temps des vieux syndicalistes qui avaient mené tous les combats sociaux dans le mouvement ouvrier, nous disaient, mais s'il y a eu des bons... Si nous avions à Saint-Nazaire des bons syndicalistes, c'est que nous avions aussi en face de nous des grands patrons. Voilà. Donc il y a des cultures sociales et des oppositions qui, curieusement, dans le temps, ont produit des réseaux et une capacité à travailler ensemble. Donc la culture sociale d'un territoire. Et quand aujourd'hui des porteurs de projets viennent à Nantes, en tout cas sur ce territoire, ils sont surpris de la capacité qu'on a tous à travailler ensemble. Les socialistes avec la droite, avec le MEDEF, avec les syndicats, etc. Avec l'ensemble des organisations, savent se retrouver pour travailler ensemble sur des projets communs. Donc ça fait partie des atouts d'un territoire qui ne se voient pas, qui ne sont pas mesurables, qui ne sont pas géographiques, mais qui pèsent très fortement, je pense, sur l'avenir d'un territoire.
Alors, à l'inverse, j'ai envie de poser la question de l'exclusion de certains territoires par rapport à cette idée de patrimoine. Est-ce que on va avoir des territoires exclus dans le domaine de l'innovation? Osons le désert. On a entendu hier.
Moi, je suis contre.
Le Limousin, c'est tellement touché par la crise. Hein.
Une réaction sur
sujet. Sur quoi? Sur ce que tu viens de dire?
Oui.
Personnellement, je ne répondrai pas sur le dernier point. Je pense quand même sur la mise en valeur du patrimoine. Et une idée qui m'est venue hier, quand on a parlé de l'exemple de la santé, je ne sais pas si vous avez... si vous en souvenez, le marketing des idées en matière de santé appliquées à l'énergie et la lutte contre le réchauffement climatique pour modifier les habitudes en matière d'énergie, comment on modifie les habitudes en matière de santé, nutrition, etc. Et ça m'a fait penser à un autre sujet qui est, j'ai envie de dire santé, climat, même combat, parce que sur les... En santé, il y a eu des nouveaux travaux qui ont été menés, c'est ce qu'on appelle les living labs. C'est un peu à la mode actuellement. C'est-à-dire que sur un territoire, eh bien, on associe tous les acteurs à la recherche, à l'innovation et au développement. C'est-à-dire qu'on pose des problèmes et on fait rencontrer les différents acteurs. Alors en santé, c'est depuis l'infirmière et les malades ou les retraités ou les personnes handicapées, jusqu'à l'ensemble de la chaîne, pour pouvoir traiter en temps réel les idées, les options technologiques, les options d'organisation qui sont imaginées par les chercheurs et ceux qui se posent des problèmes, avec naturellement des entreprises qui sont dernières. Alors là-dessus, je crois d'ailleurs, il y a eu un appel d'offres il n'y a pas longtemps où Ronald était présent, le Limousin, PACA.
Petite intervention, juste après, si tu veux.
Et je me dis, pourquoi moi derrière ça, il y a quand même une idée, c'est passer d'un... On le disait tout à l'heure, c'est passer d'une recherche-développement purement technologique, où en gros, il y a les chercheurs avec les entreprises dans leur laboratoire, à un package un peu de solutions technologiques, mais qui inclut à la fois la technologie, le service, j'ai envie de dire même le service après-vente, parce que derrière, on voit tout de suite qu'est-ce qui doit se passer, et en peser immédiatement le résultat. Et je crois que sur le climat, sur des choses qui sont un peu moins technologiques, comment faire évoluer les mentalités, comment utiliser peut-être des nouveaux outils comme, je ne sais pas, les smart grids. Là, je laisse un peu... Il y a peut-être un sujet là-dessus pour valoriser au mieux les compétences du territoire.
Merci à lui. Jean-Damien, pour une petite intervention.
Oui, les aménités naturelles du territoire, j'ai pas d'exemple où ça génère de l'innovation, mais j'ai un exemple où le fait de vouloir protéger les espaces naturels, lorsque... En face de ça, il y a une forte pression au développement, eh bien, ça met en tension un territoire, et du coup, ça génère la recherche de solutions, alors que j'allais qualifier d'innovantes, d'autant quand elles ne sont pas rendues possibles, ces solutions, par les réglementations existantes. J'en reviendrai là-dessus.
Oui.
Non, mais il m'avait dit 30 secondes.
Je voulais qu'on passe 5 minutes sur cette question. En fait, c'est Olivier qui m'a incité à poser la question du diagnostic, la théorie de l'existant, par rapport à ce, non pas ce qu'on émet comme gaz à effet de serre, mais ce qu'on pourrait limiter comme gaz à effet de serre, avec les questions de puits de carbone notamment. Alors, Antoine.
Sur la notion de ressources d'un territoire.
Et voilà.
Il y a par exemple des économistes comme Bernard Pecker, qui est responsable d'un groupe de travail du territoire 2040, qui a beaucoup travaillé sur la notion de ressources territoriales, considérant le territoire lui-même comme une ressource. ça va plus loin que les ressources naturelles, les ressources humaines, etc. Considérer le territoire comme une ressource, c'est quoi? C'est par exemple, ce sont des choses très immatérielles, en fait. Ce sont par exemple la capacité des différents acteurs de ce territoire à travailler ensemble, le relationnel, leur capacité à se mobiliser autour d'un projet, etc. Ça, c'est très productif, c'est une ressource qui rentre dans l'input, je dirais, du système économique territorial. Et ce sont des approches nouvelles, mais qui participent et qui expliquent parfois, pour ne pas dire souvent, la capacité différentielle d'un territoire par rapport à un autre, à pouvoir se mobiliser, à prendre de l'avance et à se positionner sur certains projets.
Voilà.
Oui, moi je voudrais donner un point de vue sur ta question. Y a-t-il des territoires, entre guillemets, condamnés ou dans lesquels l'innovation ne peut pas surgir? Une petite anecdote, parce que hier matin, en fait, j'étais pas avec vous parce que j'étais ici. J'étais exactement à la même place. Et je participais donc à un groupe de travail national sur les assises des territoires ruraux où je représentais l'Association des régions de France.
C'était avant-hier. C'était juste en face.
C'est le passe-temps.
C'était hier matin. C'était hier matin. C'était le groupe sur l'organisation des territoires. Et alors, c'est pour ça que je vais en parler, parce que la question qui a été posée hier, c'est quelle organisation des territoires ruraux pour permettre, je dirais, que le développement local, le développement territorial se fasse aussi dans les territoires ruraux, et en quoi la loi sur la réforme des collectivités, ça va peut-être faire la transition avec la troisième question, peut favoriser ça. Et je dois dire que, de façon unanime de tous les acteurs qui étaient autour de la table, le sujet qui remonte, c'est la capacité des territoires ruraux à s'organiser et à se donner les moyens, en termes notamment d'ingénierie territoriale, d'ingénierie de matière grise, de se donner les moyens pour construire une stratégie de développement à partir d'un diagnostic type atout du territoire, ressources, potentiel, etc., etc. Et on a eu un point très dur avec le ministère et l'animateur du groupe qui travaille pour le cabinet du ministre de l'Aménagement du Territoire, parce que le point de vue aujourd'hui du gouvernement, c'est la suppression des PEI et c'est augmenter un peu la maille de l'intercommunalité. Tout le monde autour de la table a dit c'est le meilleur moyen de planter les territoires ruraux. C'est-à-dire que si demain, le développement des territoires ruraux ne doit reposer que sur la maille de l'intercommunalité, il n'y aura pas d'innovation. Pourquoi? Parce que les intercos aujourd'hui sont des structures de gestion et pas des structures qui ont de l'ingénierie de projet. Voilà. On parle bien des territoires ruraux. On n'arrivera pas à faire le lien ville-campagne et à avoir des vrais territoires pertinents dans lesquels il y a à la fois la dimension urbaine dans laquelle on peut trouver la formation, la recherche, etc. On aura des villes et des territoires ruraux, des communautés de communes isolées. Et tout le monde a plaidé sur le fait que tout territoire a sa chance de développement si on lui donne la capacité de s'organiser et de recruter et d'avoir une ingénierie dédiée. Et ça, ça passe par une maille de développement, une maille qui est de toute façon supra-communautaire. Donc nous, enfin en tout cas à la région Basse-Normandie, on dit tout territoire a son potentiel de développement du moment qu'il se donne la capacité de le définir, de définir ses stratégies, puis surtout de la mettre en œuvre de façon concertée entre les acteurs. Et c'est comme ça qu'on pourra faire venir l'innovation, parce que l'innovation, elle n'est pas réservée à l'agglo-canaise, elle n'est pas réservée aux endroits où il y a de la recherche, etc. Il faut qu'on l'amène aussi dans les PME, il faut qu'on l'amène dans les territoires ruraux. Voilà, donc nous, notre point de vue, c'est que c'est une question d'organisation, de maille et de répartition des compétences.
Bien, donc on devait passer 5 minutes, on y a passé presque un quart d'heure. Donc on va parler du sujet, j'allais pas dire d'un vrai sujet, parce que les autres étaient aussi des vrais sujets, mais qui est celle de la gouvernance et du niveau de territoire adapté pour définir et décider d'une stratégie. Alors on a quelques éléments d'environnement avec un rapport récent d'information du Sénat sur les pôles de compétitivité qui a été publié en octobre 2009 avec différentes interventions. Bon, une première réflexion disant que les collectivités territoriales, notamment les régions, s'étaient fortement mobilisées en soutien du dispositif des pôles de compétitivité, mais que parallèlement, certaines régions avaient mis en place d'autres dispositifs, hein, comme la région PACA, sur, par exemple, un dispositif de pôle régional d'innovation et de développement économique solidaire. Monsieur Christian Blanc, qui a eu l'occasion d'intervenir devant la commission du Sénat, a estimé que les conseils régionaux étaient les seules collectivités qui pouvaient impulser activement les synergies entre les entreprises, la formation et la recherche. Et il allait très loin dans ses propositions, en souhaitant confier aux conseils régionaux la totalité des fonctions de développement économique de l'État. Monsieur Alain Rousset, dans son intervention, donc lui en tant que président de l'Association des régions de France, proposait un renforcement de la décentralisation et de la prise de décision au niveau des régions. Quant à Monsieur Michel Mercier, donc ministre du développement de l'espace rural, bon, lui, il a dit qu'il était nécessaire d'assurer une bonne répartition des compétences entre l'État et les régions. Moins engagé, on va dire. Donc, la question, est-ce que la région, aujourd'hui, dispose d'un espace suffisant pour gouverner un projet de territoire? Et, à ce titre, quels sont les premiers retours d'expérience de la territorialisation du Grenelle de l'environnement?
La territorialisation du Grenelle de l'environnement, elle ne parle pas beaucoup d'innovation. Hein, c'est...
Bon, alors on va rester sur la première question.
Non, mais je ferai pas la deuxième.
Oui, parce que il y a quelqu'un du groupe qui voulait absolument qu'on parle de ce sujet de territorialisation du Grenelle de l'environnement.
C'est pas moi.
Enfin bon, la région. La région, donc, est-elle le niveau pertinent?
Les pôles ont été évoqués, je voudrais en dire un tout petit mot rapidement, si je peux, si je sais. Bref. Bon, 5 ans d'existence, hein, quand même, effectivement, il y a le rapport du Sénat. Ce qu'il faut se rappeler, quand même, dans les principes fondamentaux des pôles de compétitivité, deux choses importantes. La première, c'est que les pôles sont dans une logique de proposition de projets de coopération ascendante. Ce sont les acteurs industriels, formation, chercheurs, qui proposent sur leur thème donné, leur thème de référence, des innovations et du développement industriel. Hein, c'est associé, c'est pour ça que c'est intéressant. Et les pouvoirs publics disent, bon, attendez, effectivement, ce que vous proposez par rapport à notre politique régionale qui finance, l'État qui finance, ben, ça nous va bien, on met un tampon, vous êtes sérieux, on vous donne des sous. Ça, c'est la logique ascendante des pôles de compétitivité. Je veux faire tout de suite une distinction entre pôle de compétitivité et cluster. Même si cluster veut dire groupement, le cluster à l'anglo-saxonne, c'est pas un pôle de compétitivité. C'est un regroupement d'entreprises et d'acteurs pour faire de la conquête de marché. C'est une autre forme d'augmentation de ces activités. Et parfois, j'entends la confusion entre les mots, le cluster, le pôle. C'est quand même deux approches différentes avec deux compétences et deux gouvernances différentes. L'autre point, je voulais dire, au bout de 5 ans, ces pôles de compétitivité, un regard que j'ai pas trouvé dans le rapport du Sénat, c'est que on les a peut-être, il y a un grand danger, on les a peut-être un peu enfermés dans des précarés technologiques et géographiques à double cercle, double ceinture, hein, à la fois sur un territoire bien souvent administratif, c'est-à-dire la région ou voire deux régions, mais aussi dans un zonage de recherche qui est issu, paraît-il, d'une directive de Bruxelles, mais qui est, permettez-moi l'expression, complètement absurde, parce que la recherche et l'innovation, il n'y a pas de raison qu'elles sortent plus d'un côté de la rue que de l'autre. Enfin, c'est une contrainte complètement absurde. Alors, cette double fermeture des pôles les limite dans leur adaptabilité. Les technologies évoluent, il y a des choses nouvelles qui nous sortent, notamment par des relations croisées entre pôles, etc. Et des interdits. Moi, j'ai un pôle qui s'appelle Prodinov, qui s'occupe de l'aliment santé. Les chercheurs de Bordeaux amènent une idée pour faire de la conservation de vaccins à température ambiante, qui est quand même un problème humanitaire énorme. Eh bien, le pôle ne peut pas le labelliser, c'est pas dans son périmètre. Allez voir un autre pôle santé qui est dans une autre région, à Lyon. Ah oui, mais le porteur du projet, il n'est pas lyonnais, donc on n'en veut pas. Oui. Donc le genre de limite du système pôle, il faudra faire très attention, si vous en êtes acteur, à ce que ça ne s'assèche pas comme ça, parce que justement trop contraint, trop enfermé. Bon, celui qui vous parle, il est administrateur dans 4 pôles et animateur dans 3 pôles. Donc, j'ai plein d'exemples à vous donner si vous le souhaitez.
Sur la question de l'ensemblier, là, est-ce que la région peut être l'ensemblier finalement de toutes ces initiatives en matière d'innovation?
Moi, je dirais que je suis très intéressé par ce qui vient d'être dit sur les espaces ruraux, là, parce que je pense qu'un des gros problèmes qu'on a chez nous, c'est qu'on confond l'administration des territoires avec les projets du territoire. Et je dis bien évidemment que la région est un espace pertinent pour organiser le territoire, pour même en avoir une vision, etc., etc., à condition de ne pas en avoir une vision intégriste. Parce que nous aussi, par exemple, à certains moments, on nous a interdit de coopérer avec d'autres parce que ce n'était pas dans le cadre régional. Donc il faut que cette vision régionale soit quand même ouverte et pas intégriste. Ça, c'est la première chose. Puis deuxième chose, sur l'innovation, j'en sais rien, moi, si c'est l'espace pertinent, on ne pourra jamais le dire. Peut-être que oui, mais peut-être que non. Nous, on travaille sur des pôles de compétitivité qui sont sur plusieurs régions. Et alors, où est le problème? En fait, il n'y a pas de problème. Si on réunit les acteurs des différentes régions concernées par le problème, eh bien, on va avancer. Donc voilà, je pense que c'est quand même très important. Enfin, je veux dire, s'il y a une chose qu'on doit noter aujourd'hui en conclusion de notre table ronde, ne confondons pas l'administration des territoires avec les projets, surtout pas en matière d'innovation. Nous, on commence à aborder des coopérations avec la Russie maintenant. Excusez-moi, on est quand même assez loin de notre territoire. Eh bien oui, mais si c'est ça qui fait fonctionner le système, travaillons avec la Russie. Voilà, donc je pense que c'est surtout faire vraiment la différence entre ces débats sur les collectivités et les compétences et le développement des projets, surtout les projets d'innovation.
Voilà.
Une formule.
C'est pas ma spécialité, la question que tu as posée, mais je vais quand même donner quelques éléments, peut-être que Luc aussi pourra compléter. Aujourd'hui, la position de Rousset, qui est le patron de l'ARF, c'est de défendre des régions dont le projet est de développer, on va dire, ce volet enseignement supérieur, recherche, innovation, et un certain nombre de grandes infrastructures d'aménagement du territoire. Rousset est très, je vais le dire assez crûment, mais pas tout à fait sur la ligne que j'ai posée juste avant, c'est-à-dire qu'il considère que la dimension cohésion territoriale infra-régionale est pas forcément la préoccupation, doit pas forcément être la préoccupation première des régions. Donc, il est beaucoup plus sur c'est la région qui est la bonne maille pour la mise en réseau des acteurs du développement, de l'innovation. C'est quand même la force. Il développe cet argument-là en le mettant en parallèle avec la question de la gestion des fonds européens. C'est-à-dire que pour lui, il faut un acteur qui conduise ou mette les acteurs du développement et de l'innovation en réseau, en capacité de travailler ensemble, et qui soit en capacité de soutenir les projets à la fois sur les fonds propres de la région, sur son budget propre, et sur les fonds européens qui gèrent en même temps. C'est pour ça que les régions revendiquent d'être autorités de gestion, non seulement des fonds structurels, FEDER, FSE, mais aussi du FEADER et du FEP. Alors, je ne m'étendrai pas sur ce point, mais c'est quand même assez important. C'est clairement une posture de concurrence vis-à-vis de l'État. C'est-à-dire que ce n'est pas tant vis-à-vis des départements que la question se pose, c'est plutôt vis-à-vis de l'État. C'est, la vraie question, c'est est-ce que c'est les régions ou est-ce que c'est l'État qui joue ce rôle ? Et là, c'est qu'on a un vrai débat sur la décentralisation. Par contre, la question des départements revient à travers ce qui est prévu dans la loi, c'est-à-dire le futur mode d'élection des conseillers territoriaux. Donc, simplement, je vous rappelle que c'est un mode d'élection qui est prévu en 2014 qui fera que le conseil régional sera composé à 80% d'élus élus sur une base territoriale, hein, des cantons élargis. Et pourquoi les régions sont, et les départements d'ailleurs, mais les régions sont vent debout sur ce truc, c'est que pour les régions, c'est la meilleure façon de casser, je dirais, une équipe régionale en capacité de porter des politiques de niveau régional. Et non pas. C'est le risque, c'est de faire une région qui redistribue simplement du budget entre ces micro-territoires. Enfin, donc, moi, je ne peux que dire ça, bien que ce ne soit pas vraiment mon sujet, je suis plus dans l'aménagement du territoire que dans la recherche, l'innovation et le développement, mais c'est clair que c'est la position forte du président de l'ARF aujourd'hui, et qui est défendue par la plupart des présidents des régions, c'est il faut que la maille régionale ait les moyens de travailler pour ça, et donc les budgets pour ça, et la main libre, et ne soit pas tout le temps un doublon avec l'État. Hein, donc le vrai débat, il est sur la décentralisation, quoi.
Alors, justement, là, je vais vous renvoyer sur le rapport sur le grand emprunt, parce que s'agissant de la création des 5 à 10 instituts de recherche technologique dans le domaine des énergies décarbonées, qui est envisagé dans ce document, il est question de faire une sélection par un jury international. Donc, on ne voit pas bien où sont les régions dans ce schéma. Philippe, tu voulais réagir ?
Non, oui, non, mais oui, parce que mais là, parce qu'on parle de du plan de relance à 35 milliards. Là.
Oui,
l'emprunt, le grand emprunt.
Oui, bah, donc là, on parle d'une initiative de d'échelle nationale, voilà. Et enfin, moi, j'ai beaucoup entendu écouter ce que disait Alain. Je pense qu'effectivement, les rôles respectifs. Pour répondre à la question, à mon avis, la région, elle a déjà l'intérêt, l'avantage d'être plus proche du terrain que l'État. Et la problématique de décentralisation, c'est quel est le rôle respectif de la région et des services de l'État. Derrière cette question se cache la suivante, c'est quelles sont les marges de manœuvre dont disposent, je ne parle même pas des moyens, hein, les fonctionnaires de l'État, pour d'une part pouvoir, le cas échéant, faire du développement alors qu'ils sont essentiellement occupés à faire de l'application de la réglementation. Et a fortiori, pour pouvoir faire inventer des formules et des solutions spécifiques à des territoires. Bon, c'est ça qu'il faut qu'on arrive à avoir une autorité suffisamment proche d'un territoire pour définir une stratégie pour ce territoire, et ensuite pour avoir une capacité à hiérarchiser les différents projets qui, in fine, parce que c'est quand même ça un rôle important de ces collectivités-là, pourront bénéficier d'un coup de pouce pour les aider à démarrer, quoi.
D'accord. Enfin, mon interrogation, c'est pourquoi aller chercher un jury international alors qu'on a, des partenaires régionaux, quoi, qui...
Non, mais parce qu'on n'est pas à la même échelle. On est sur un truc colossal. Voilà, c'est tout. Donc à chaque échelle, à chaque taille de projet, son niveau de collectivité.
La question n'est pas... Pour moi, la question, c'est quelle région ? Donc la question n'est pas territoriale, elle n'est pas liée à un espace géographique. Mais elle est liée à ses capacités. Alors, on peut parler des capacités financières, parce que c'est toujours le premier sujet qui revient, mais dans quel niveau d'autonomie ? Et puis, on ne parle jamais en France des capacités réglementaires. Bon, même sans parler de la capacité à faire la loi, mais à produire en tout cas de la réglementation. Et donc, c'est ce que disait exactement Alain, mais sur un sujet beaucoup plus vaste, c'est quelle répartition entre l'État et les régions. Donc, la question n'est pas de savoir si... de connaître la taille de la région, sinon on doit être avec les Bretons, avec les... Bon, la question c'est de savoir quelle capacité globale, financière, dans le cadre d'une autonomie, et capacité à agir sur les règlements.
Voilà. Je peux peut-être rebondir là sur les suites, enfin, ou la territorialisation du Grenelle. Je ne sais pas ce que ça veut dire exactement dans ta question. Je ne sais pas si la loi Grenelle prévoit une territorialisation et sous quelle forme. Ce que je sais, c'est qu'il y a eu sur l'estuaire de la Seine un Grenelle de l'estuaire, qui a été une initiative des élus, et en l'occurrence d'un élu qui est Antoine Ruffnac, Alors ça a une logique, ça procède de plusieurs logiques. L'une, c'est qu'il y a effectivement sur l'estuaire de la Seine des complémentarités entre rive droite, rive gauche, et qui convient de faire jouer. Ça procède probablement d'une capacité à travailler ensemble dont tu parlais tout à l'heure, parce qu'effectivement, je constate au Havre, et tu le confirmes à Saint-Nazaire, que dans ces territoires de culture industrielle ou portuaire, il y a quelque chose. Il y a un dynamisme, il y a une volonté de faire ensemble. Ça procède d'une motivation politique, parce qu'il se trouve que l'estuaire de la Seine est à droite, alors qu'à peu près tout le reste est à gauche. Alors derrière ça, bon, enfin... Ça procède aussi d'une volonté d'examiner si une intercommunalité pourrait s'élargir sur cet espace. Voilà. Et puis alors donc ça, je vais passer sur la manière dont ça s'est déroulé. Ça a pris beaucoup de temps. Il y a eu beaucoup de participants. Il en résulte quand même des questions sur la légitimité des uns et des autres. Les associations voulant finalement, si elles entrent dans le système, participer aussi aux décisions budgétaires. Les élus disant nous sommes élus pour assurer un certain nombre de responsabilités, on n'est pas tout à fait dans le même statut que les associations. Je passe là-dessus, mais simplement, enfin, voilà un exemple de territorialisation qui débouche aujourd'hui sur plusieurs groupes de projets, chacun des projets étant piloté par un des présidents des différents pays qui composent l'estuaire. Et puis parmi ces projets, il y en a un, c'est un projet dit d'écologie industrielle. C'est-à-dire que effectivement, il y a des flux de matière, des flux de déchets, des flux d'énergie, des flux de toutes sortes qui circulent dans ce territoire. Et la question, c'est comment on pourrait optimiser, avec toujours l'image, un peu les déchets de l'un sont la matière première de l'autre, quoi. Alors ça prouve que cette question, ça prouve que sur un territoire donné, celui-là est particulièrement dense hein, en termes industriels. Hein, enfin, il se fait une prise de conscience du fait qu'on pourrait optimiser les choses si on les organisait différemment. C'est-à-dire que tant que chaque entreprise est soumise à sa propre logique économique et à sa propre réglementation particulière, les réponses vont être celles-ci. Et puis ici, par contre, on regarde les choses d'une façon un peu plus collective, on va probablement, c'est en tout cas l'idée sous-jacente, arriver à dégager des solutions plus pertinentes. Mais assez rapidement... va se poser la question du rôle de l'État à nouveau. Parce que, y compris pour la chaire CO2 dont je parlais tout à l'heure, si je ne sais pas si j'étais tout à fait clair, mais si le Havre est associé à ça, c'est parce qu'il y a des industries au Havre, indépendamment des centrales au charbon, qui produisent énormément de CO2. On en produit 10 millions de tonnes par an, hein, quand même. Hein. Rien que sur la zone industrialo-portuaire. Hein. Alors quand vous entendez que le canal Seine-Nord-Europe va permettre d'en économiser 250 000 pour un prix de 4 milliards, vous rigolez, quoi. Donc on a 10 millions de tonnes par an qui sont produites, et donc c'est un champ d'expérimentation tout à fait privilégié. La question qui va se poser, c'est est-ce que les expérimentations vont être possibles du fait des réglementations? Et moi, dans mon expérience d'aménageur du port sur plusieurs années, j'ai connu une boîte qui est d'origine suisse, qui traite des déchets nocifs, en l'occurrence des piles, et qui le fait avec des procédés hyper performants, qu'on trouve dans d'autres pays, mais qui se sont fait enquiquiner par notre administration nationale parce que l'un de leurs sous-produits n'est pas exactement alors même qu'ils récupèrent tous les métaux lourds, ce que personne d'autre en France ne sait faire, l'un de leurs sous-produits n'est pas exactement conforme à la réglementation. J'ai connu un cas dans lequel, pour traiter le problème du SO2, on avait une solution à travers une usine existante qui a fait faillite, mais la réglementation voulait qu'ayant fait faillite, elle avait 2 ans pour tout nettoyer, et donc impossible même de monter un système partenarial dans lequel on aurait pu réutiliser ces installations-là pour traiter le problème du CO2. Et j'ai connu aussi un cas dans lequel le stockage de déchets à travers les centres d'enfouissement technique, confrontés aux problématiques de rareté de l'espace, a amené à envisager des solutions, et une solution s'imposait de toute évidence, dans laquelle une carrière Lafarge, on n'a peut-être plus Monsieur Lafarge aujourd'hui, dans laquelle une carrière Lafarge pouvait, sinon sur les déchets, disons de classe 3, mais au moins sur les déchets, enfin de classe 2, pardon, mais au moins sur les déchets dits de classe 3, qui sont des déchets inertes, aurait pu être le réceptacle, et alors là c'était vraiment invisible et parfait, de certaines catégories, notamment de terres faiblement polluées. Eh bien, ça peut pas se faire, parce que il faudrait modifier l'arrêté, il faudrait refaire une enquête publique, et du coup, ça fragilise le dispositif. Et d'ailleurs, Lafarge n'a pas envie de le faire, parce que sinon, on va l'accuser, chaque fois qu'il fait une carrière, de vouloir en faire ensuite un centre d'enfouissement. Mais bon, dans tous ces cas-là, on s'aperçoit que finalement, on se heurte Non seulement on n'a pas la complicité en termes de projet, en termes techniques, des services de l'État, mais en plus, on se heurte à des impossibilités liées à des réglementations qui sont faites pour un territoire moyen qui n'existe pas et qui sont incapables de permettre de répondre à alors ce que j'appelais de l'innovation tout à l'heure, que je vais plutôt qualifier, là, maintenant, de solution spécifique à un territoire. C'est-à-dire, je suis sur un territoire, j'ai un problème spécifique, j'ai une solution spécifique, mais j'ai une réglementation. Bon, et donc, du coup, la question de l'expérimentation, y compris d'une capacité à un territoire à émettre ou à déroger, alors sous contrôle, hein, je dis pas que ça va se faire dans le désordre total, à déroger à une réglementation, me paraît être quelque chose... qui se pose énormément. Je rappelle que là, je suis en train de parler d'un territoire qui est très spécifique, mais quand on a eu l'exposé de Paris sur leur plan climat territorial, ils nous ont expliqué je ne sais plus quelle règle stupide qui empêchait de faire je ne sais plus quoi sur les bâtiments, là, parce que c'est dans le code, machin. Et pour le système de transport, par exemple, j'ai appris, parce que ce sujet m'intéresse, que récemment, dans les tramways de Rouen, l'administration a décidé qu'on ne pouvait plus monter un vélo parce que c'est dangereux. Bon, donc quand vous voulez raisonner sur un système global de transport à l'échelle de votre agglomération, si vous dites « je voudrais monter les vélos dans le tramway », vous pouvez pas. Donc je crois qu'il y a un vrai sujet, alors je suis un peu loin de l'innovation industrielle, etc., mais en termes d'innovation d'un territoire pour aborder ses propres enjeux, il y a à mon avis un vrai sujet là-dedans.
Alors, merci Jean-Damien, parce que ça va faire une excellente transition pour la suite du débat qu'on va faire,
en début d'après-midi.
Il y a un droit de réponse, là.
Il y a un droit de réponse.
Oui, oui,
attends. Parce que... justement, ça va être la question du politique et du débat citoyen, avec le retour d'expérience de notre voyage aquitain, où a été posée la question du risque pour... l'expérimentation, et la question, pour le coup, qui peut être une innovation, de création de normes intermédiaires pour pallier ces difficultés d'ordre juridique. Donc, voilà, je vous invite à réfléchir à ces sujets pendant la pause déjeuner.
Tu donnes pas le droit de réponse
Alors, un droit de réponse, mais en trois secondes.
Alors, il y a au moins trois sujets, là. Non, donc... Réglementation. Oui, la réglementation est contraignante en France et on pourrait la rendre plus performante. Je pense qu'on est, on vit sur une réglementation qui a 200 ans. La loi sur les installations classées, elle a 200 ans. Alors, elle a tenu, mais elle est un peu vieille. Elle a été en avance dans un certain temps, elle est un peu vieille. Mais c'est pas l'administration qui fait les lois et les règlements en France. Hein. Donc, il y a des choses, avec l'ère Internet, etc., on pourrait accélérer les procédures et autres. Pardon ?
Les règlements.
Deuxième. Ceci dit, il faut regarder les quelques problèmes qui ont été évoqués. Je donnerai deux exemples. Un exemple qui marquera, un exemple qui sera plus lié à l'énergie. Alsace, 30 millions de tonnes de gaz à effet de serre en 1997. 15 millions de tonnes en 2009, simplement sur un effet qui était... sur une entreprise Rodia, sur laquelle on a réduit de quasiment 90% les émissions de N2O, protoxyde d'azote, pouvoir de gaz à effet de serre, de 310 fois le CO2. Si on avait laissé l'entreprise qui a doublé de production depuis, avec ses systèmes initiaux, on serait à 45 millions de tonnes. Donc un gain de 30 millions de tonnes, le facteur 3, hein, sur l'Alsace. Donc il y a de temps en temps des résultats. Deuxième point également, sur les dioxines. Alors, tous les incinérateurs aujourd'hui, même s'ils sont plus acceptés, c'est ça qui est étonnant, émettent 2000 à 3000 fois moins de dioxines qu'ils en émettaient il y a encore 15 ans. Hein. Et sachez que malgré ça, alors là, il y a des femmes parmi nous. La concentration en dioxines dans le lait maternel aujourd'hui est 10 fois supérieure aux normes de retrait, hein, de non-mise à la consommation du lait de vache. C'est bon. Donc, on peut mettre ça en parallèle sur la réglementation. Sur le reste, je suis persuadé sur le rôle de l'État et de la région qu'il y a. C'est le principe de subsidiarité. Il y a des choses où je ne comprends pas pourquoi l'État est toujours en matière d'innovation, en particulier tout ce qui est innovation incrémentale, sur lequel il y a des pôles de compétitivité qui fonctionnent bien et sur lequel il n'y a peut-être plus besoin que l'État soit là. Sauf peut-être sur un point, sur la labellisation, on n'intervient plus financièrement. il faut peut-être aussi empêcher qu'il y ait 50 pôles de compétitivité en France qui fonctionnent sur le même sujet. Hein, bon. Avec toutes les réserves que j'ai données tout à l'heure sur... Il y a des créneaux qui sont spécifiques, il ne faut pas empêcher ces créneaux de se développer s'il y a des compétences tout à fait spécifiques, il ne faut pas qu'il y ait 50 pôles de compétitivité sur les bâtiments basse consommation de façon générale. Bon. A contrario, il y a des projets de haute technologie, avec d'innovation de rupture, technologie de rupture, sur lesquelles on n'aura pas les moyens de s'en payer deux ou trois, et c'est à l'État d'intervenir. Voilà.
Au déjeuner, hein.
Je ne savais pas qu'il y avait ça.